Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Laurent Ayem, directeur exécutif d'Info Équitable, qui nous parle depuis Paris. Laurent Ayem, bonjour.
Bonjour.
Alors, en quoi consiste tout d'abord Info Équitable? Quand s'est-il constitué?
Alors, Info Équitable produit du contenu depuis 2016. Info Équitable est un observatoire qui surveille la façon dont Israël est traité dans les médias.
D'accord. D'où est venue l'idée, d'où est venue l'importance ou l'intérêt de créer Info Équitable?
Dans le monde anglo-saxon notamment, il existe déjà des organisations qui font ce genre de travail. Dans le monde francophone, ça n'existait pas encore et il semblait qu'il y avait un besoin à ce niveau-là. On parle beaucoup de nouvelles formes d'antisémitisme qui existent aujourd'hui. Ça a été reconnu au plus haut sommet même de l'État, notamment en France, où Emmanuel Macron a déclaré que l'antisémitisme était la forme réinventée de l'antisémitisme. Mmh.
Oui, lors de la cérémonie du Veldiv, il y a quelques mois, oui.
Exactement. Exactement. Et ça, si on réfléchit un petit peu... Qu'est-ce que l'antisémitisme? C'est finalement la haine d'Israël, mais ça passe pas forcément aujourd'hui par de la haine pure, mais il peut y avoir de la désinformation, il peut y avoir des descriptions injustes qui sont faites d'Israël, qui finissent par alimenter l'antisémitisme et in fine par impacter les juifs dans la diaspora. Donc il s'est fait sentir le besoin de regarder de quelle manière Israël était couvert par rapport à cette problématique.
D'accord, donc observer, surveiller les médias par rapport à ce qu'ils véhiculent et mesurer si ce qu'ils véhiculent justement a un impact sur la montée de l'antisémitisme.
Alors, exactement. Oui. C'est alors, aussi. Ce que disent les médias, il n'y a pas toujours une intention, même souvent, il n'y a pas d'intention antisioniste ou antisémite derrière. Mais il peut y avoir aussi des informations qui sont mal tournées. Il y a toutes sortes de choses qui, finalement, avec le saut de respectabilité des grands médias, peuvent être diffusées dans le public.
Il y a aussi oui, excusez-moi.
De pouvoir être là et de pouvoir répondre lorsqu'il y a des inexactitudes.
Oui. Oui, il y a les réponses, mais il y a aussi les non-dits. Donc, oui. Quel est votre travail à ce sujet?
Alors, à ce sujet, vous avez entièrement raison. Une des formes de désinformation, finalement, c'est la non-information. Donc le travail, effectivement, se partage entre, d'une part, l'observation de ce que les médias disent, et d'autre part, on fournit de l'information qu'on peut trouver souvent dans d'autres langues, soit puisque c'est sur Israël en hébreu ou soit en anglais, mais qui ne perce pas dans les grands médias francophones. Donc c'est important de le... Il y a par exemple souvent des... Vous avez de l'incitation à la haine dans la société palestinienne. Vous avez différentes choses qui ne sont pas toujours... auxquelles on ne donne pas beaucoup écho, donc il est important aussi d'en parler.
Donc vous êtes attentif, évidemment, aux médias israéliens, mais aussi aux autres médias internationaux. Comment se déroule, justement, concrètement, votre travail? Comment procédez-vous?
Alors, en termes de médias, on couvre... d'abord, on se concentre sur le monde francophone. Mm-hmm. Dans le monde francophone, alors il y a plusieurs axes. Il y a les agences de presse qui sont très importantes, puisque... puisque les agences de presse, lorsqu'elles écrivent une dépêche, la dépêche ensuite est réverbérée et reprise souvent telle qu'elle à travers de nombreux titres de journaux et de télévision. Il y a ensuite les médias audiovisuels, notamment les médias publics, qui ont une certaine responsabilité vis-à-vis de leur... une responsabilité de... un devoir de vérité vis-à-vis de leur public. Et après, bon, vous avez les médias privés qui, eux, ont plus de liberté. Ils peuvent, il y a quand même, il y a la liberté d'expression. Ils peuvent dire un petit peu ce qu'ils veulent, mais on veille quand même à ce que ça reste juste. Surtout, bon, il y a des médias privés qui ont des gros journaux, des grands quotidiens qui ont quand même un impact important. Donc c'est sur cela qu'on se concentre. On se concentre sur les médias qui sont des médias de masse et des médias qui sont largement consultés par le public et dont l'information est censée être justement fiable. Donc c'est cela qu'on... et qui ont des chartes souvent aussi qui les tient à un certain devoir et qu'on les rappelle finalement à leur propre charte. On regarde si l'information qu'ils produisent correspond bien à la... aux devoirs qu'ils se sont eux-mêmes fixés.
Donc voilà, vous, vous observez un manquement, un biais, un préjugé ou une non-information, un non-dit. Bon, à partir de là, qu'est-ce que vous faites? Comment réagissez-vous, notamment sur votre site, sur les réseaux sociaux, par rapport aux médias incriminés?
Il y a plusieurs axes. Il y a de la communication directe avec, avec les médias pour obtenir dans certains cas des corrections. Il y a la publication effectivement d'articles sur notre site et qui sont relayés par les réseaux sociaux. On est présent sur Facebook et sur Twitter où j'invite vos auditeurs à aller nous suivre donc sous le nom de Info Équitable. Notamment sur Twitter, on peut communiquer aussi assez directement avec les médias et on peut mobiliser le public lorsqu'il y a des erreurs graves qui sont commises. On peut mobiliser le public pour avoir plus de poids. C'est tout l'avantage des réseaux sociaux.
Alors, avec toute cette expérience, tout ce bagage, est-ce qu'il y a des médias francophones plus récidivistes que d'autres?
Écoutez, il y a forcément différentes sensibilités, mais je dirais qu'aujourd'hui, il y a assez peu de médias francophones qui ne sont pas touchés de près ou de loin par certaines... inexactitudes qui se glissent dans leur colonne. C'est pas forcément comme on pourrait l'imaginer une question de gauche ou de droite où vous avez vraiment à travers l'échiquier vous avez des informations qu'on peut reprendre. Nous on est vraiment attentif au travail des grandes agences de presse et en France, dans le monde francophone, il y a une agence de presse qui est importante en particulier, c'est l'AFP, donc simplement parce qu'elle a un grand poids, donc c'est important de regarder ce que l'AFP dit.
D'accord. Et pouvez-vous...
Oui. C'est vraiment... je dirais qu'il n'y a pas... En fait, vous avez quelques médias qui seront effectivement des médias... Il y a des médias qui sont foncièrement anti-Israël, ça existe. Mais on va d'ailleurs pas les faire changer d'avis, c'est pas la question. Mais ensuite vraiment, vous avez souvent des erreurs qui se reproduisent un petit peu à travers l'ensemble des médias. Donc, on n'a pas d'a priori et on essaye d'appliquer le même prisme à tous les médias et simplement, ce qu'on observe, on réagit.
D'accord. Et au bout de ce temps, pouvez-vous déjà mesurer des effets concrets de votre travail sur les médias observés?
On sait que certains articles qu'on a écrits ont été bien reçus par les rédactions. Et donc c'est-à-dire que, si vous voulez, dans une rédaction, vous avez c'est jamais très agréable de se faire d'être de voir son travail remis en cause, donc les rédactions n'aiment pas forcément ça, donc elles écoutent ce que l'on fait. L'impact ensuite, il viendra aussi, c'est un projet qui est assez récent, donc il va falloir qu'il se développe. On aimerait obtenir plus de corrections. C'est quelque chose qui dans le monde francophone n'est pas aussi répandu que dans le monde anglophone, donc il faut un petit peu de temps pour que cela vienne. Mais il y a aussi un impact au niveau du public. C'est vraiment, on fait des décryptages, on informe le public et on aide le public à comprendre ce qu'il reçoit comme information.
Donc aussi un travail pédagogique.
Pédagogique.
Et depuis que vous avez commencé à fonctionner, y a-t-il un cas qui vous a frappé, choqué, voire révolté plus qu'un autre?
Il y en a eu plusieurs. On observe, je peux vous en citer un ou deux. Bon, on observe souvent de la réécriture de l'histoire. On observe. Il y a eu un cas il y avait un documentaire d'Arte sur qui s'appelait Les Colons. Dans lequel il y avait une interview d'un habitant justement que Carté appelle un colon, un juif qui vivait dans Judée-Samarie et qui expliquait que son but c'était un Israël qui irait jusqu'au Tigre et à l'Euphrate. Donc un grand Israël. Alors c'est franchement quelque chose d'assez marginal. Si vous allez, il faut bien chercher les gens comme ça en Israël. Ils existent et il y a des marginaux, des gens qui ont des points de vue un peu extrêmes dans toutes les sociétés. Mais c'est cet homme-là qui a été interviewé pour donner une certaine image. Ensuite, Arte a rajouté une carte du grand Israël qui allait du Nil à l'Euphrate. Fabriqué par les producteurs du film, et on a montré comment ensuite on a fait deux articles. On a d'abord expliqué ça, puis on fait un deuxième article. On montrait comment cette image était ensuite reprise par des réseaux complotistes et des réseaux antisionistes et antisémites pour diaboliser les juifs, expliquer que les juifs voulaient s'emparer de tout le Moyen-Orient. Et donc, on montre comme ça comment le cheminement de l'information. Et c'était important parce que Arte, justement, donne une respectabilité à cette information en la faisant paraître. Il y a eu un autre cas cet été vous savez qu'il y a eu à Jérusalem des troubles qui ont été nommés par les médias la crise des portiques. Oui. En fait, la crise des portiques, elle n'était pas due aux portiques eux-mêmes. Les portiques n'auraient pas été là s'il n'y avait pas eu un attentat juste avant, et l'attentat a été perpétré par des gens qui avaient caché les armes sur le mont du Temple, dans les mosquées qui sont sur le mont du Temple. On a pu démontrer que une vidéo de la police israélienne était parue montrant les terroristes en train de cacher les armes dans les mosquées. Cette vidéo a été diffusée dans les médias israéliens notamment. Et l'AFP, qui reste vraiment qui est la principale source d'information en France et dans le monde francophone, une source très importante, l'AFP n'a pas du tout pris note de cette vidéo, n'en a pas parlé pendant 24 heures. Et puis ensuite, ça a été traité du bout des lèvres et donc ça a été très très peu mentionné par l'AFP. Mais c'est ça qui pouvait expliquer la réaction des Israéliens. En ce sens-là, on pouvait imaginer que les Israéliens mettaient des portiques pour brimer les musulmans, mais ce n'était pas du tout ça. Ils mettaient vraiment les portiques pour contrôler qui irait sur le mont du Temple à cause de ce qui s'était passé.
Oui.
Donc c'était important de... Donc on a vraiment fait une étude approfondie, on a accès aux dépêches, on a décortiqué ça pour pouvoir... pour expliquer que là, c'était un cas finalement de désinformation, puisqu'on faisait porter le chapeau à Israël par un manque de contexte.
Oui. Vous avez bien illustré par ces deux exemples ce travail de décortication pour lutter contre la désinformation. Très bien. Avant de terminer, pouvez-vous encore nous donner les coordonnées de votre site, s'il vous plaît?
C'est donc infoéquitable, en un seul mot, infoéquitable.org.
Donc relayé sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, c'est ça?
Exactement.
Très bien. Laurent Ayem, merci beaucoup. On sera en contact avec et on suivra tout le travail que vous continuez à mener au cours des prochains mois.
Merci à vous.
Voilà, à bientôt.
À bientôt.